L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, reporter et aviateur. C'est d'ailleurs en vol qu'il va disparaître en 1944. Thomas Rivière, bonjour.
Bonjour.
Un grand, grand oncle. Je ne sais pas comment on peut expliquer le lien de filiation que vous avez avec Antoine de Saint-Exupéry. C'est quelqu'un de votre famille dont vous avez des membres qui sont proches et qui ont été proches, vos parents?
Alors, Antoine de Saint-Exupéry était mon arrière-grand-oncle, hein, donc pour faire plus simple. C'était l'oncle de ma grand-mère. Et ma grand-mère l'a connu. C'est-à-dire que quand Antoine de Saint-Exupéry a disparu en mer eh bien, en 1944, ma grand-mère avait 15 ans. Donc elle a des souvenirs très précis. Elle avait des souvenirs très précis de son oncle et de ses aventures incroyables. Puisque si on se remet dans le contexte de l'époque, avoir un oncle qui voyage à l'époque, qui vole dans des avions, qui traverse les océans, qui traverse l'Atlantique, c'était quelque chose de pas commun. Et donc elle nous racontait quand on était enfant, elle nous racontait les aventures et quand il venait les voir dans le sud de la France et qu'il arrivait avec plein d'histoires à raconter parce qu'il voyait le monde et qu'à l'époque on avait beaucoup moins l'occasion de le faire.
Il a écrit à quel moment son livre Le Petit Prince, qui est quand même un de ses best-sellers, il faut le dire.
Le Petit Prince est un best-seller incroyable et universel, mondial. Ouais. C'est un livre qui s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde et qui continue à se vendre à 5 millions d'exemplaires chaque année dans le monde. En France, par exemple, c'est un livre qui s'est vendu à 15 millions d'exemplaires. C'est aussi le livre le plus traduit. On est passé le cap des 600 traductions, donc dans toutes les langues, dans tous les dialectes, dans même des patois. Enfin, c'est vraiment étonnant de voir que la passion, et c'est un livre qui plaît dans le monde entier. C'est un livre qui est lu aussi bien en Amérique du Sud qu'en Asie, qu'aux États-Unis, qu'en Europe, qu'en Afrique. C'est un livre qui traverse les frontières et qui, peu importe la traduction, peu importe la langue dans laquelle vous le lisez, bien c'est un livre qui touche de la même façon au cœur. Le livre a été écrit en 1942. Il devait sortir à Noël 42 aux États-Unis, puisque son éditeur américain lui avait commander un livre, un conte de Noël. Ça n'a jamais été un conte de Noël et c'est jamais sorti à Noël, donc l'histoire a été tout autre. Et plutôt que faire un conte de Noël, il a écrit Le Petit Prince, qui est un peu la somme de toutes ses expériences, de toute sa vie, de tout ce qu'il a pu voir et de toute la poésie qu'il peut avoir dans ses écrits. Le livre est sorti en 43 aux États-Unis, en avril 43 aux États-Unis, et Saint-Exupéry est reparti en Europe combattre pour libérer la France. Hein, il est mort pour la France. Et le livre ne sortira qu'en 1946 en France. Donc nous allons célébrer en 2026 en France les 80 ans du Petit Prince.
Il a fait tout de suite un énorme succès où c'est venu plus tard. Alors aujourd'hui, c'est sur les objets, sur des histoires. Il y a eu un film également, des dessins animés. Enfin, ça se décline dans tout un tas d'objets et de supports. Ça a été un succès immédiat, ce livre.
Alors, on peut parler de succès, mais on n'est pas sur un succès comme on peut le voir aujourd'hui, où l'économie est mondialisée, où les livres ou les films sortent au même temps, au même endroit, et qu'on parle de gros chiffres. Le succès s'est fait aux États-Unis parce que Saint-Exupéry était déjà très connu, ses livres étaient déjà sortis aux États-Unis, il avait déjà gagné des prix, il avait gagné un prix féminin en France, et donc c'est un auteur qui était déjà un auteur qui vendait des livres. Donc, mais à l'époque, on parlait de quelques milliers d'exemplaires, et c'est ça la magie du Petit Prince, c'est-à-dire que c'est un livre qui a traversé les générations. Si on le lit aujourd'hui, c'est parce que c'est un livre qu'on offre, c'est un livre qu'on transmet, c'est un livre qui traverse les époques parce que on a envie de le faire découvrir aux gens qu'on aime. On l'offre à l'être aimé, on l'offre à des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et la lecture du Petit Prince est toujours associée à un moment et à une personne. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire que le Petit Prince, on le lit à 6 ans. Et même dans la chanson de Renaud, il disait qu'on lisait le Petit Prince à 6 ans. Ce qui est oui, on découvre le Petit Prince à 6 ans la plupart du temps, mais c'est quelqu'un qui nous le lit. Ça peut être un grand-parent, un parent. Et c'est toujours associé à un souvenir de quelqu'un qui vous est proche, avec qui vous avez une histoire particulière, une histoire familiale, des sentiments. Et donc, ce livre vous accompagne et le travail se fait, si vous voulez, de transmission, se fait naturellement. Vous avez lu le Petit Prince, on vous l'a lu quand vous étiez enfant et vous allez le faire découvrir à vos enfants et à vos petits-enfants, parce que c'est un livre qui traverse les générations et qui se transmet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un phénomène mondial et c'est pour ça aujourd'hui qu'il continue à se vendre. Il ne s'est jamais autant vendu, en fait. On en vend 5 millions chaque année. On n'en vendait pas 5 millions dans les années 40 ou dans les années 50, même dans les années 80. C'est aujourd'hui qu'on en vend 5 millions parce que le livre est édité dans toutes les langues, partout dans le monde, et que c'est exponentiel. Vous le lisez, vous l'offrez aux gens que vous aimez, qui eux-mêmes l'offrent à des gens qu'ils aiment. Et donc, ça fait des nouveaux lecteurs tous les jours. Et vous le lisiez. Il y a eu des adaptations. Donc, du coup, quand on fait des adaptations au cinéma, quand on fait des expositions immersives, quand on fait des comédies musicales, quand on fait du théâtre, quand on fait des expositions, bien sûr, comme à Strasbourg, eh bien, ça permet de découvrir l'œuvre. Parce que vous allez avoir les gens qui connaissent le livre et qui veulent aller voir, prolonger le plaisir de la lecture et faire découvrir. Et vous allez avoir des gens qui vont se retrouver là parce qu'ils sont invités, parce qu'on les a emmenés, parce qu'on veut leur faire découvrir ça et qui vont découvrir l'œuvre à travers ces expositions, le cinéma, la télévision, les comédies musicales, le théâtre, etc. Donc, c'est pour ça qu'on décline aujourd'hui beaucoup le Petit Prince sur différents supports, différents médias. On a des spectacles de drones du Petit Prince, on a des expositions immersives, c'est très à la mode. On a des expositions magnifiques comme à Strasbourg parce que c'est très important de faire parler du Petit Prince, de continuer à le faire vivre, c'est notre travail, de faire vivre le Petit Prince à travers des événements, des anniversaires notamment, et à travers, vous l'avez dit, des objets, parce que le Petit Prince se décline, et si, évidemment, dans des produits dérivés de qualité pour pouvoir, une nouvelle fois, prolonger. On le voit, on a une boutique à Paris qui marche très très bien. La boutique à Paris, on voit des adultes rentrer et des adultes qui achètent des peluches, qui achètent des figurines. On pourrait croire que c'est pour les enfants. Non, non, ils l'achètent pour eux parce qu'ils veulent prolonger. Ils veulent un petit morceau du Petit Prince. Ils veulent une peluche renard, ils veulent une poupée du Petit Prince, une figurine.
On parlait d'une déclinaison mondiale du Petit Prince. Ça reste le Petit Prince ou c'est traduit
C'est très marrant parce que le Petit Prince reste très souvent le Petit Prince, notamment en Chine. La marque qui est entre guillemets utilisée, c'est le Petit Prince. Ils veulent que ce soit français parce que le Petit Prince est associé à Paris, à la France. Vous savez, Saint-Exupéry, c'est l'auteur francophone le plus lu et le plus traduit au monde. Donc, ça fait rayonner la France et la francophonie partout dans le monde. Donc, le Petit Prince est très important. Après, il y a des... historiquement, les Allemands lisent Der kleine Prinz parce que ils l'ont lu à l'école ou ils l'ont découvert sous ce titre-là. Mais la plupart du temps, quand on fait des très belles collaborations avec des grandes marques, eh bien, ils utilisent le Petit Prince parce que c'est ça qui est le plus connu dans le monde.
Aujourd'hui, vous êtes l'héritier de cette immense charge, quelque chose qui est lié, justement, vous le disiez, je pense, une charge émotionnelle des Français. Ça vous oblige, ça, justement, à faire attention à ce que cette marque, le Petit Prince, reste sur des produits de qualité et qui soit destiné à des bons usages.
C'est ce que j'ai tendance... ma réponse, elle est souvent la même. Mon travail, c'est de dire non. En premier lieu, je dis non, voilà, parce qu'on ne veut pas abîmer le Petit Prince. On a ce devoir. Les gens aiment le Petit Prince, ça les touche au cœur et on ne peut pas les trahir. On ne peut pas faire des choses qui ne seraient pas du Petit Prince. Donc, quand on est en France, on travaille avec des entreprises françaises. En Allemagne, on travaille avec des entreprises allemandes. On a à cœur à travailler avec des gens qui aiment le Petit Prince. C'est-à-dire que les projets se font avec Tempora qui fait l'exposition à Strasbourg, avec les gens du Parc du Petit Prince. On a un petit Parc du Petit Prince en Alsace que vous connaissez, qui a accueilli 1,5 million de personnes. Il n'aurait jamais fait autant d'entrées s'il n'avait pas porté les valeurs du Petit Prince. Et si les gens qu'il avait créés, la société Aérophile, qui commercialise ses ballons captifs partout dans le monde, il y en a à Paris, il y en a partout dans le monde... si ces gens n'étaient pas passionnés par le Petit Prince, et c'est le dénominateur commun de chaque collaboration qu'on peut faire, que ce soit dans des événements culturels ou dans des produits, comme vous disiez, il faut que les gens aient cette passion du Petit Prince, parce que le Petit Prince c'est une marque aujourd'hui, c'est une licence, mais c'est pas une licence comme celle que vous voyez dans les supermarchés ou dans les magasins de jouets. On n'est pas associé à un film qui sera seulement 3 mois à l'écran et qui va disparaître et qui peut-être sera oublié.
C'est une image à long terme.
Exactement.
Et c'est une tradition, une mémoire française importante et qui suit de génération en génération. Et vous, justement, quel a été le poids de ce Petit Prince dans votre vie? J'imagine que votre grand-mère, votre mère, peut-être, vous l'a lu. Vous avez pris très vite conscience de cet héritage.
Alors moi, c'est très marrant parce qu'il a toujours été là, le Petit Prince. C'est comme un cousin, finalement. On en a toujours parlé. Et on ne se rendait pas compte. Alors déjà, quand j'étais enfant, il y a une quarantaine d'années, Le Petit Prince n'était pas aussi universel et aussi répandu. Il n'y avait pas eu de film, il n'y avait pas eu de parc, il n'y avait pas eu de toutes ces choses-là. Il y avait quelques expositions, il y avait de très beaux objets déjà, mais voilà, on était au début de l'histoire, on était vraiment au début de l'histoire. Le Petit Prince a toujours été là. Et moi, on m'a toujours dit que j'aurais ce destin-là de travailler un jour et d'accompagner Le Petit Prince dans ses aventures et d'accompagner des sorties, des expositions, etc. Mais je n'y croyais pas parce que voilà, c'était plutôt une sorte de plaisanterie dans la famille. Et finalement, après des études de commerce et des expériences professionnelles, ça a été le bon moment de rejoindre, il y a 16 ans maintenant, cette grande aventure pour accompagner le temps de quelques années. Je ne sais pas combien de temps ça durera. C'est un plaisir de travailler, de voyager, de rencontrer des gens, de pouvoir parler du Petit Prince, de pouvoir parler de ce phénomène. C'est une véritable expérience et on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose de tellement joyeux et qui rend les gens heureux que c'est un plaisir total.
Vous étiez à Strasbourg, une exposition immersive a pris place au Parc des Expositions dans un grand hall. Vous êtes allé voir, vous validez ça, vous, avant qu'il y ait une exposition qui prenne place. Alors j'imagine qu'elle est itinérante, là on en profitera jusqu'au mois de mai à Strasbourg. Vous validez une exposition comme celle-là, et qu'est-ce qu'il y a de vous là-dedans, d'objets peut-être ou de mémoires qu'on va pouvoir découvrir?
Oui, ce type d'exposition, c'est plusieurs années de travail. Parce que d'abord, elle est magnifique et elle est incroyablement bien documentée. Elle est vraiment, vous allez vous plonger dans Le Petit Prince et Saint-Exupéry, parce qu'il y a les deux. Il y a Le Petit Prince qui vous accueille et vous rentrez dans la vie de Saint-Exupéry. Le Petit Prince est la porte d'entrée pour découvrir l'incroyable vie de Saint-Exupéry qui n'a vécu que 44 ans, mais qui a une existence folle. Qui voyageait autant dans les années 30, qui prenait ses avions, qui n'était pas sûr d'arriver à bon port, traverser les océans, voilà. Donc c'était vraiment une vie incroyable qu'il a eue. Et bien c'est cette vie qui est racontée dans cette exposition. Évidemment, on a travaillé main dans la main avec Tempora, on a évidemment accompagné, on a proposé des documents, la gourmette par exemple de Saint-Exupéry qui est présentée dans l'exposition, des objets qui lui ont appartenu, cartables, etc. Et puis toute la documentation qu'on peut avoir, bibliographique bien sûr, pour pouvoir faire en sorte que l'histoire qui est racontée soit la vraie histoire. Donc oui, on a accompagne ce type d'exposition parce qu'elles sont importantes pour faire découvrir l'homme derrière l'œuvre et pour faire pour prolonger, j'aime bien utiliser ce mot-là, de prolonger l'expérience. Le Petit Prince, vous le lisez, c'est une lecture, c'est personnel, et une fois que c'est fini, vous êtes traversé par des émotions incroyables, et la meilleure façon de prolonger ça, c'est de le partager. Vous savez, Saint-Exupéry parlait de créer des liens. Et ben, on se retrouve avec des milliers de personnes qui vont voir ce type d'exposition. Tout comme il y a des milliers de personnes qui vont à Bordeaux voir le Bassin des Lumières, au Parc du Petit Prince, dans tous ces événements incroyables qu'on peut faire à travers le monde, eh bien, c'est hyper important de créer des liens parce que d'un coup, vous pouvez partager cet amour du Petit Prince avec d'autres qui viennent pour les mêmes raisons que vous.
Et vous, c'est un amour familial, vous êtes amoureux de cette œuvre, vous avez de l'admiration pour cet homme, pour cet arrière-grand-oncle?
Vous savez, Antoine de Saint-Exupéry, il est parti, il avait 44 ans. Je suis un peu plus vieux que lui aujourd'hui. C'est étonnant de voir la vie qu'il a eue. Et moi, je suis assez fasciné par l'homme. Je suis assez fasciné par la vie parce qu'il est allé au bout de ses passions. C'est quelqu'un qui c'était un penseur, c'était un écrivain, un philosophe, un pilote, un aviateur, un aventurier. C'est quelqu'un de courageux qui est parti combattre, qui est mort pour la France. C'était un combattant. On aimerait être à la hauteur. On aimerait être à la hauteur parce qu'il a tellement fait, il a tellement donné à l'humanité en seulement 44 ans que c'est un honneur, si vous voulez, de travailler et d'accompagner le Petit Prince à notre humble échelle et d'organiser des choses pour mettre en valeur sa vie, son travail, son œuvre, parce qu'il mérite vraiment cette lumière, parce que c'était quelqu'un de formidable.
C'est entendu, on est tout à fait d'accord évidemment avec vous, et puis merci à vous comme ça de continuer à faire diffuser ces bons éléments de vie et je veux dire presque des choses philosophiques qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Nous, évidemment, on est la génération qui avons grandi avec Le Petit Prince, et puis on est très très content évidemment de vous recevoir pour parler et évoquer la mémoire de ce grand homme. Thomas Ribière, merci infiniment
merci
d'être passé nous voir.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.